Chapitre 11. Mort ne tient compte des races ni des âges. Mort indifférente. Mort cueille sur le champ de bataille. Mort l'essentiel. Est aboutissement du duel en chacun. Négation de l'un. Est abandon de la dépouille corrompue. Retour à l'initial. Mort soustrait à l'onde passagère. Mort, flot originel. Mort déchaîne le torrent des pleurs. Mort, mère éternelle. Efface ténébreuse de l'illusion. Magicienne de l'obscur. Et nécessité vitale de l'erreur. Nouveau périple. Mort délivre le captif des murs de l'orgueil. Mort ultime chaîne. Mort porte l'oubli bienvenu du temps. Mort rigueur de l'urgence. Et besoin pressant, amour correcteur, maillon, fin et suite. Est exil de paix, bain de jouvence, main du Kreutz. Messaoudin Djupiet. Les lointaines montagnes du Grand Ergue brûlé se découpaient sur la clarté blafarde de Salom, dont l'œil globuleux se plissait à l'horizon. Quelques étoiles pâlissantes se partageaient les îlots de ciel encore cernés par la nuit. Allongée sur la banquette du Percenaire et recouverte de la veste du Franchao, la Syracusaine dormait. Ses traits s'étaient enfin apaisés. Accroupi près de la banquette, Tixou, à la fois anxieux et heureux, guettait sur son visage les signes avant-coureurs d'une reprise de la fièvre ou d'une nouvelle crise de délire. Il éprouvait le sentiment du collectionneur jaloux de l'œuvre qu'il vient d'arracher de haute lutte à des rivaux acharnés. Il n'avait pas envie de partager la beauté miraculeuse de la jeune femme, abandonnée dans son sommeil, avec les gardes dont les regards se posaient sur elle avec un peu trop d'insistance à son goût. Des instants dérobés à la nuit lui appartenaient. Après qu'il eut survolé un ensemble de constructions aux terrasses plates et étagées, l'appareil amorça sa descente au-dessus d'une immense surface métallique et plane. Tixou jeta un coup d'œil par le fuselage transparent et reconnut le toit de la base souterraine des Franchao de la Camorre. Bilo Maetrelli surveillait les manœuvres d'atterrissage par le hublot de la cabine de pilotage. Les lumières clignotantes du tableau de bord jouaient dans la chevelure crépue et enflammée de Zortias, concentrée sur l'écran bulle de paramétrage. Dans un grondement sourd, le Percenaire se stabilisa à 5 mètres du toit, à la perpendiculaire des vantaux d'ouverture soulignés par des linéaments sombres. Le Prouge entra rapidement les coordonnées d'accès sur un petit clavier, mais, contrairement à son attente, les panneaux ne coulissèrent pas.
« Qu'est-ce qui se passe ? » maugréa-t-il en secouant sa tignasse de feu. « Cette saloperie refuse de s'ouvrir. »«
Essaie encore !» ordonna sèchement le Franchao.
Le rugissement des moteurs stabilisateurs du Percenaire meurtrissait la nuit agonisante. Zortias pianota plusieurs fois de suite sur les touches, secoua la console comme un damné, puis, voyant que c'était inutile, se frappa rageusement les cuisses.
« Rien à faire, elle ne s'ouvrira pas. Cette saloperie a bien choisi son moment pour nous lâcher. »«
Ça ne lui ressemble pas, » murmura Bilo Maitrelli d'un air sombre.
Il sortit sa lunette nyctaloptique de son étui et la braqua sur la surface métallique. Il vit alors de minuscules débris éparpillés autour d'un boîtier relais dissimulé dans l'une des charnières des vantaux.
« Remonte, remonte! Ce n'est pas une panne! Ça pue le traquenard, bordel de merde, remonte !»
Zortias inversa les manettes et enclencha brutalement les moteurs d'extraction. Une secousse ébranla le Percenaire qui émit un mugissement plaintif. Les gardes déséquilibrés furent éjectés de la banquette et projetés sur Tixou. Les trois hommes enchevêtrés roulèrent sur le plancher instable et heurtèrent de plein fouet le bas de la cloison séparant la cabine du compartiment. Dans le choc, Tixou se mordit profondément la langue. Un flot de sang força le barrage de ses lèvres. et jeta un rapide coup d'œil par-dessus son épaule, la Syracusaine réveillée ouvrait de grands yeux hagards. Elle avait roulé sur elle-même, mais, dans un réflexe instinctif, elle avait agrippé le bord extérieur de la banquette et raidi son bras pour s'empêcher de tomber. Les moteurs d'extraction peinaient pour briser l'inertie générée par le surplace. Le personnel amorça enfin son ascension dans une odeur d'air surchauffé. Au moment où il prenait un peu de vitesse, un rayon vert étincelant surgit d'un angle sombre du toit de la base, écartela la semi-obscurité et vint frapper la partie inférieure de la carlingue. Une irrespirable puanteur de matériaux carbonisés envahit l'habitacle.
« Merde, ce salopard a crevé la protection du mémo disque central !»
hurla Zortias.
« Ça vient de là-bas, de notre droite !» ajouta un garde.
Les moteurs vomirent une fumée noire, octèrent, puis, après un dernier et sinistre crachotement, se turent définitivement. Hors de lui, en sueur, Zortias tira sur le levier de descente automatique.
« Dégainez vos brûlentrailles !» ordonna calmement Bilo Maitrelli à ses gardes. « Dès que vous aurez posé le pied sur le toit, je braquerai le faisceau de ma lampe laser sur ces petits plaisantins pour les aveugler et les empêcher de riposter. Tixou, tu restes à l'intérieur avec la fille, jusqu'à ce qu'on ait fini avec eux. »
Le personnel tombait au ralenti. La caresse de l'air sur le fuselage profilé produisait un léger sifflement. Le Franzao et Zortias sortirent de la cabine et vinrent se poster en compagnie des deux gardes de chaque côté de la trappe coulissante qui s'ouvrait lentement. Le Prouge extirpa son petit brûlentrail de son pagne. Les doigts de Bilon Maitrelli enserraient un tube de dural terminé par un œil rond et vitreux. Le sol n'en finissait pas de se rapprocher. La tension nerveuse était d'autant plus grande qu'ils ignoraient tout de leur adversaire, le nombre, la disposition, la puissance de feu. Une chose était sûre, ils voulaient la fille vivante ou morte. Elle ne s'était pas rendormie. Elle geignait doucement, yeux mi-clos, pâle, mains crispées sur le bord de la banquette. Tixou eut soudain peur de la perdre. Il lui saisit le poignet comme s'il voulait se river à elle pour l'éternité. Il perçut la palpitation ténue de ses veines sous sa peau douce et brûlante. Il perçut également le battement accéléré de son propre cœur. Les yeux bleus, verts et or de la Syracusaine se posèrent sur lui comme des papillons ivres. Un second rayon vert se ficha dans le flanc de la coque qu'il transperça aussi facilement qu'un vulgaire tissu. Il traversa le compartiment sans toucher personne, griffa la nuit d'une lueur intense, menaçante, et ressortit de l'autre côté, n'abandonnant dans son sillage que deux trous ronds symétriques aux circonférences noires et crépitantes.
« Mieux vaut ne pas prendre ce truc dans la tête !» murmura Bilo Maitrelli.
Le Franzao se tourna vers Tixou comme si un sombre pressentiment s'emparait de lui.
« Tu trouveras un déromate au troisième étage de Sarbilo. Le code d'accès au salon des transferts est « Vieil ange ». C'est la contraction des deux mots « violine » et « orange ». Connerie de nostalgie. Tu te souviendras ? Vieil ange. N'oublie pas le trait d'union. Pour le reste, tu te débrouilleras. Tu es un spécialiste des transferts, non ?
Mais pourquoi est-ce que vous... bredouilla Tixou, alarmé par le masque de gravité et de tristesse tombé sur les traits du Franzao.
Heureux de t'avoir connu, fils,
répondit simplement Maitrelli. Un dernier coup d'œil amical à l'attention de son complanétaire, puis il se détourna brusquement pour masquer l'émotion que risquait de trahir son regard légèrement embué. Grâce à son bouclier d'air, le personnel se posa en douceur et sans bruit sur le sol métallique.
« Maintenant !» chuchota le Franzao.
Ils se ruèrent dans un ensemble parfait sur le toit de la base, les deux gardes sur la gauche de l'appareil, Maitrelli et Zortias sur la droite. Le faisceau blanc de la lampe laser fouilla fébrilement l'obscurité, heurta l'angle formé par l'extrémité de la surface métallique et le mur d'un immeuble mitoyen, repartit aussitôt dans l'autre sens, lorsqu'il localisa enfin un groupe d'agresseurs, quatre hommes aux uniformes gris masqués de blanc et une silhouette immobile enfouie dans un ample vêtement vert. Ni les gardes ni Zortias n'eurent le temps de presser la détente de leurs brûlentrailles. Des disques sifflants surgis d'un repli de la nuit leur tranchèrent la gorge. Il y eut d'abord le bruit mat de la chute des corps sur la surface métallique, puis le froissement de l'acier sur les chairs et les os et le gargouillement du sang. Tixou, qui avait observé la scène depuis le ventre du personnel, se serra contre la Syracusaine et cria au Franzao.
« Venez vous abriter à l'intérieur !»
C'était stupide. Les rayons verts se jouaient de la résistance des matériaux de la coque, mais aucune autre idée ne lui vint à l'esprit. Maitrelli jeta la lampe laser, se saisit du brûlant rail ensanglanté de Zortias, dont la tête exsangue se détachait peu à peu de son tronc, et recula en lâchant quelques rafales. Il n'avait pas eu l'ombre d'une chance. Il se souvint des paroles de Tixou la veille, lors du repas dans le salon de Sarbilo.
« Contre eux, vous ne pourrez rien faire. Ils devineront toutes vos intentions. »
Un disque lui cisailla le creux de l'épaule. Ses jambes flageolèrent et il tomba à genoux. Malgré les pétales vénéneux et glacés de la douleur qui se déployait en lui, l'instinct de survie le poussa à se relever. Il fit encore quelques pas, tituba. Sa bouche vomit un flot de paroles et de sang.
« Tixou ! Tixou ! Tixou Oti ! Vie ! Vie pour moi ! Pour l'orange !»
Un deuxième disque lui perfora la base du crâne et ressortit luisant et empourpré au ras de sa pomme d'Adam. La tête n'était plus reliée au cou que par des lambeaux de chair sanguinolente. Il buta contre le cadavre décapité de Zortias, son seul ami et confident depuis la mort de Sif Kerwick, et bascula à la renverse. Il ne reverrait jamais Violine la Verte, sa belle province d'Orange, mais son interminable et douloureux exil venait de prendre fin. Paniqué et horrifié, Tixou se vit perdu, seul et désarmé face à cette redoutable petite troupe. La Syracusaine laissait échapper des sons incompréhensibles, des bribes de phrases incohérentes qui retentissaient comme des appels dans le silence de mort trombé sur le toit de la base. Il posa la main sur ses lèvres pour la réduire au silence. Une précaution inutile. C'était elle qu'il voulait, et la créature habillée de vert, forte de son extraordinaire potentiel télépathique, savait qu'elle était à bord. Le souffle tiède et précipité de la jeune femme caressait sa paume. Leurs deux visages n'étaient qu'à 10 centimètres l'un de l'autre. Il eut envie de l'étreindre, de l'embrasser, d'écraser ses lèvres sur ses paupières, sur ses joues, sur son cou. Ils allaient mourir, et elle, tout contre lui, ne se rendait compte de rien, ne le voyait même pas. Les hommes masqués de blanc longeaient maintenant le personnaire. Ils ne cherchaient pas à étouffer le claquement de leurs chaussures sur le toit métallique. Le rectum de Tixou se contracta. Il eut l'impression que les contenus de sa vessie et de ses entrailles allaient se répandre dans son pantalon empoissé de sueur. Il se sentait terriblement impuissant, incapable d'infléchir le cours du destin. Le dieu Lézard était venu à son secours sur les dunes de Rajatana, mais à présent il ne se manifestait plus. Il l'abandonnait à son sort. « Pourquoi m'avoir permis de la sauver si c'est pour me la reprendre aussitôt ? Est-ce que ça aussi ce n'est pas monstrueux ?» Il entendit le frôlement de leurs épaules sur le flanc rebondi de l'appareil. La jeune femme gémissait en sourdine, ses tremblements faisaient onduler la veste chinée du Franzau. Une tache claire se découpa dans l'ovale de la trappe. Un masque, une combinaison grise. Au travers des étroites fentes oculaires luisaient des braises maléfiques. Deux lignes sombres et parallèles sillonnaient l'avant-bras sur une manche relevée de la combinaison, le rail d'un lance-disque. Une cascade de pensées échevelées, dérisoires, futiles, de visions absurdes, incongrues, submergea l'esprit de Tixou. Il aurait fallu frapper l'intrus qui prenait appui sur le bord de la trappe pour se hisser à l'intérieur du compartiment, charger la Syracusaine sur ses épaules, fuir, tenter quelque chose. Mais ses muscles paralysés refusaient de lui obéir. Il essaya désespérément de se remémorer les paroles de Kachumarum. La force, l'invincibilité. Des rigoles de sueur glacée rampaient le long de sa colonne vertébrale. Une brume tourbillonnante, triste et sale noyait son cerveau. L'homme masqué de blanc se reçut souplement sur le plancher, se releva et tendit le bras vers Tixou, qui pressa la main de la Syracusaine fiévreuse et inconsciente, et lui jeta un dernier regard lourd de regret. Il partait rejoindre son complanétaire, Bilo Maitreli, dans les mondes de l'au-delà. Les deux Orangiens s'étaient rencontrés la veille dans de curieuses circonstances. Ils allaient être tués tous les deux sur Point Rouge, la nuit même où leur planète fêtait ses 20 siècles d'indépendance. Pour une Syracusaine qu'ils ne connaîtraient jamais. Étrange caprice du destin. Il fermit les yeux et ressentit instantanément un sentiment de soulagement. C'était comme s'il lâchait d'un seul coup toutes les prises. Comme si plus rien n'avait d'importance. Un sifflement prolongé retentit au-dessus de sa tête. Il attendit l'impact du disque sur sa gorge. Quelques secondes plus tard, étonné d'être toujours en vie, il entr'ouvrit ses paupières. Le tueur avait disparu. La jeune femme était toujours là, allongée sur la banquette, vivante elle aussi. Tixou se demanda s'il ne rêvait pas. Puis il entrevit des mouvements confus au travers des parois du personnaire et s'enhardit à ramper jusqu'à la trappe coulissante. Les tueurs au masque blanc s'étaient regroupés quelques mètres plus loin autour de l'homme au large capuchon vert. Les souples ventouses d'atterrissage du taxi-boule qui volait tout feu éteint effleuraient le toit du personnaire. Un rayon vert fusa et percuta la bulle de pilotage du petit appareil y creusant un trou de la grosseur d'un poing. Les lamelles en rideau d'une écoutille s'ouvrirent sous le ventre du taxiboule et deux hommes dégringolèrent sur le toit du personnaire. La bulle aérienne, légère et maniable, reprit instantanément de l'altitude dans un miaulement rageur et se fondit dans les vestiges de la nuit, prise d'assaut par les prémices blafardes du feu vert. Des coups sourds ébranlèrent soudain la carlingue du personnaire. Tixou releva la tête et observa les deux hommes qui dansaient un étrange ballet au-dessus de lui. Leurs jambes et leurs genoux écartés donnaient la curieuse sensation qu'ils étaient assis sur le vide. Ils étaient vêtus de sortes de combinaisons de toiles grossières, l'une grise et l'autre couleur bronze, composées d'une veste large, liée sur le côté par une cordelette et d'un pantalon bouffant. Le plus âgé des deux portait en outre une courte veste bleue et un bonnet de coton blanc. L'Orangien comprit qu'il s'affairait à esquiver avec une virtuosité stupéfiante les disques tournoyants décochés par les tueurs au masque blanc. Lorsqu'il ne parvenait pas à les esquiver assez rapidement, il les bloquait d'une parade du poignet, et ce n'était pas le moins surprenant. Les disques ricochaient sur leurs poignets dépourvus de toute protection et n'y laissaient pas une seule égratignure. Déviés de leur trajectoire, ils ricochaient violemment sur le métal du toit dans un crissement de tôle froissée et soulevaient des gerbes d'étincelles. En même temps qu'ils s'employaient à parer les disques des tueurs, les deux hommes poussaient de longs cris suraigus à la limite de l'audible. Tixou devina qu'ils se servaient de leur voix exactement comme d'une arme. Les tueurs au masque blanc s'affaissèrent les uns après les autres. La poire à rayons verts et des dizaines de disques scintillants libérés de leur étui dorsal s'éparpillèrent sur le toit de la base. Resté seul, l'énigmatique silhouette verte n'esquissa pas la moindre tentative de fuite. Deux soleils jaunes chargés d'énergie brillaient dans la pénombre de son capuchon. Le chevalier Longshu Pae se concentra longuement sur le Xui. Il pressentait qu'il n'avait pas affaire à un adversaire ordinaire. Un skait d'Hyponéros, probablement. Il avait l'impression de se trouver au bord d'un gouffre insondable.
« Chevalier, je vous demande de me le laisser !» rugit Philpas Moussa. « Je vous rappelle qu'il s'agit de ma mission, ma mission !»
Cette appropriation était déplacée, ridicule, indécente même. L'orgueil entraînait le guerrier à commettre de graves imprudences. Mais Longshu Pae préféra ne pas insister. Le Xui était si subtil, si volatile qu'il pouvait s'évanouir au moindre souffle de contrariété. Il hocha la tête et se tint prêt à intervenir au premier signe de faiblesse de son cadet. Philpas Moussa injecta toute la puissance de son mental dans son cri de mort. De violentes convulsions secouèrent la silhouette verte. Le son, une sorte de ululement provenant du bas-ventre et non de la gorge, s'amplifia, s'acharna sur elle. Elle plia, mais ne rompit pas. Une sueur abondante perlait sur le front plissé du guerrier que la résistance de son adversaire commençait à fatiguer. Longshu Pae vit que Philpas Moussa était en difficulté. Il descendit mentalement dans le lac du Xui, au point de convergence des énergies vitales. Mais il n'eut pas besoin d'entr'ouvrir la bouche et de libérer son propre cri. La silhouette fléchit enfin et s'effondra de tout son long sur le sol métallique, au milieu des masques blancs, des uniformes gris et des disques dispersés. Épuisé mais soulagé, Philpas Moussa arbora un petit air de triomphe que Longshu Pae jugea quelque peu puéril. Le chevalier s'engouffra dans le compartiment du personnaire et dévisagea Tixou, ensanglanté, abasourdi, qui eut toutes les peines de l'univers à contenir la force pénétrante de ce regard, pourtant éteint, mort, comme absent du visage anguleux.
« La fille ?» demanda le chevalier d'une voix sèche. « Elle est là ?» répondit Tixou en désignant la banquette. « Vivante ?»
Ces questions étaient des coups de fouet secs et précis. L'Orangien se redressa péniblement et essuya machinalement d'un revers de manche le sang coagulé sur ses lèvres et son menton. Sa blessure à la langue l'élançait et rendait son élocution difficile.
« Oui, mais mal en point, à cause de la fièvre, du virus. Et qui êtes-vous ?»«
Peu importe, » répliqua Longshu Pae. « Ce que nous voulons, c'est récupérer la fille. Rassurez-vous, ce n'est pas pour la vendre. Nous avons seulement besoin de certaines de ses connaissances. » Philpas Moussa fit alors son entrée. La sueur plaquait ses cheveux noirs et bouclés sur ses tempes et son front. Ses yeux de jais, agrandis par la fatigue d'une nuit sans sommeil, et surtout par la violence du combat mental livré contre l'homme à la cabas verte, brillaient de satisfaction.
« Un bel homme ?» se dit Tixou. et un homme dont les gestes racés trahissaient les origines nobles. Quelqu'un de la même catégorie sociale que la Syracusaine. Lui, elle le regarderait peut-être.
« Vous voyez, guerrier, la jeune femme est là, bien vivante !» s'exclama Long Choupaï.
« Ils se sont tous entretués pour la voir, ils ont coupé eux-mêmes les mauvaises herbes, et il ne nous reste plus qu'à l'accueillir comme une fleur. »
« Si ce sont des congratulations que vous recherchez, chevalier, je vous les accorde, »
lâcha Philippe Asmussa d'un ton méprisant. L'animosité qui régnait entre les deux hommes n'échappa pas à Tixou, qui avait compris, au titre qu'ils se donnaient, ils appartenaient à l'ordre Apsurat. Comme tout natif des mondes affiliés à la Confédération de Naflin, il avait entendu maintes fois vanter les mérites et chanter les louanges de l'ordre. Sur Orange, par exemple, l'histoire magnifiée de la chevalerie Apsurat avait été intégrée depuis 3 siècles standard au programme scolaire. Voilà en tout cas qui expliquait l'efficacité meurtrière de leur intervention.
« Il est bien loin le temps où je recherchais les félicitations guerriers, » déclara Long Choupaï. « Je vous ferai simplement remarquer que vous n'étiez pas d'accord avec mon plan. Et pour clore le chapitre des félicitations, je ne vous en décernerai pas pour la qualité de votre prestation. Votre cri de mort a perdu de son unité contre votre dernier adversaire. Imaginez qu'il ait été armé et tirez-en vous-même les conséquences.
Je l'ai vaincu, c'est l'essentiel, se défendit Philippe Asmussa mortifié.
L'essentiel est de ne pas trahir le Xui. L'air songeur, le guerrier se frotta vigoureusement la joue.
Sans vouloir me justifier à tout prix, cet homme ne possédait pas un mental ordinaire. J'avoue qu'il m'a déstabilisé. Mon cri s'est peu à peu émoussé, comme s'il se perdait dans le vide. Un vide immense, bien plus grand en tout cas que mon lac de Xui. J'ai même été surpris de le voir tomber. Je n'ai eu aucune de mes sensations habituelles.
« Je ne vous blâme pas, » dit Long Choupaï. « Je veux seulement vous montrer qu'il est parfois bon de tenir compte des conseils de personnes plus expérimentées que vous.
Mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. La boutique de Kraoufas a été mise à sac pendant la nuit.
L'une de mes mouches nous en a avertis par l'onde faune du taxiboule. Le déromate relais de l'ordre a été détruit.
« Vous ne connaissez pas quelqu'un qui soit susceptible de vous en prêter un ?»«
Eh non, » répondit le chevalier en haussant les épaules.
Tixou sortit du mutisme où l'avaient confiné les deux hommes qui se comportaient exactement comme s'ils n'étaient pas là.
« Moi, j'en connais un, »
avança-t-il timidement. Le chevalier et le guerrier se tournèrent vers lui.
« Vous ?»
s'exclama Long Choupaï. Philippe Asmussa parut brusquement prendre conscience de la présence de l'Orangien.
« Qui êtes-vous ? » lâcha-t-il d'un ton rogue presque menaçant.
« Tixou Oti, d'Orange. J'étais un complanétaire et un ami de Fransaou Maitreli. Avant de mourir, il m'a donné le code d'accès à son déromate personnel.
Comment se fait-il que vous connaissiez cette fille ? Et comment avez-vous appris qu'elle était poursuivie par les assassins de Prithiv ? » demanda Long Choupaï.
« C'est simple. C'est moi qui lui ai permis de passer de 2 saisons sur Point Rouge, » répondit Tixou. Et par la suite, j'ai eu affaire à ses poursuivants. Et une curieuse expérience m'a fait prendre conscience de la grande importance de sa vie, pour l'univers et pour moi.
« Ce que vous racontez là m'a tout l'air de sornette, »
aboya Philippe Asmussa irrité. Une attitude pleine de défiance, la même que lorsqu'il s'était retrouvé pour la première fois devant le chevalier.
« On ne vous apprend plus à reconnaître l'accent de la vérité au monastère ?» cracha Long Choupaï d'une voix acide.
« Cessez donc de soupçonner tout le monde. Personne ne songe à vous dérober votre précieuse vérité, guerrier. »
Excédé par la remontrance du chevalier proféré qui plus est devant un individu étranger à l'ordre, Philippe Asmussa se détourna avec brusquerie et se pencha sur Afikit dont les gémissements s'étaient interrompus et qui s'était rendormi d'un sommeil en apparence paisible.
« Elle est encore plus belle de près que de loin, »
ne put s'empêcher de soupirer le guerrier en contemplant le visage de la jeune femme. Bien qu'elle fût prononcée à mi-voix, Tixou perçut très nettement cette petite phrase. Une griffe amère de jalousie se planta dans son ventre. Il se sentait en position d'infériorité vis-à-vis du guerrier dont il n'avait ni la force ni la prestance. Il était de nouveau le pauvre mortel. Le Tixou raté de 2 saisons qui noyait sa misère dans le Mumbe.
Pouvez-vous nous conduire au transféreur de cellules du Franchao ? Demanda le chevalier d'une voix douce.
Le personnaire est hors d'usage.
Tixou regrettait d'avoir parlé du déromate de Bilo Maitrelli. Même si la Syracusaine était capitale pour l'ordre et la Confédération, il ne pouvait se résoudre à la laisser sortir de sa vie. C'était un sentiment irraisonné, purement égoïste, voire mesquin, mais c'était le seul qu'il fût capable d'éprouver en cet instant précis. En un peu plus d'une journée standard mouvementée, elle avait pris une telle place dans sa vie que l'abîme creusé par une nouvelle séparation serait impossible à combler.
« Allons voir si le taxi-boule n'est pas trop endommagé, » dit le chevalier.
Joignant le geste à la parole, il se glissa dans la trappe du personnaire. Une fois dehors, il extirpa un lumicode d'une poche intérieure de sa bure et envoya des signaux à l'attention du taxi-boule suspendu dans la clarté livide de l'aube. Quelques minutes plus tard, l'appareil se posa sans encombre sur le toit de la base. Graufas en descendit par la portière bombée de la cabine de pilotage. Ses yeux s'agrandirent d'effroi à la vue des cadavres décapités jonchant le sol métallique.
« Tout va bien, chevalier ?»
demanda-t-il d'un ton inquiet. Un sourire se dessina sur les lèvres aiguisées de Long Choupaï. Précieux Graufas, dont l'éternelle expression d'épouvante dissimulait un courage indomptable. « Nous allons embarquer dans le taxi-boule. Est-ce qu'il est en état de supporter une charge de 5 personnes ?»«
Ce maudit rayon l'a bien un peu secoué, mais il devrait tenir le coup. »
répondit Graufas, dont le regard venait sans cesse échouer sur la tête cireuse d'un autre prouge. Elle nageait dans une mare de sang noir qui venait lécher et teinter de pourpre les semelles de ses sandales. L'un des siens avait encore perdu la vie cette nuit. Il songea qu'avant tout ça, avant la Confédération, avant le débarquement des Raskatas, Point Rouge avait dû être une petite planète paisible.
« Guerriers, nous embarquons. Occupez-vous de la fille !» ordonna Long Choupaï.
Ils s'entassèrent tant bien que mal dans l'habitacle exigu de la bulle aérienne. Tixou vit que le guerrier ne laissait à personne d'autre le soin de surveiller la jeune femme, qu'il maintenait contre lui d'un bras ferme et puissant. Le taxi-boule décolla et gagna rapidement de la hauteur. L'orangien embrassa du regard le toit de la base, s'arrêta sur le corps à demi décapité de Bilo Maitrelli. Il eut un goût d'amertume dans la gorge. Il n'avait connu Bilo que l'espace de quelques heures. C'était un Franzao de la Camorre, un Raskata, un trafiquant, un criminel. Mais Tixou quittait pour toujours un ami, un frère de combat, un père de fortune. Ses yeux larmoyèrent, une immense fatigue l'envahit. La tête dodelina doucement contre la coque transparente. Les éclaireurs de l'aube assiégeaient les recoins de ténèbres. Les étoiles s'éteignaient une à une, comme soufflées par une invisible bouche. Une lumière verdâtre s'étirait paresseusement à l'horizon, ourlait les crêtes brisées des constructions, le mur crénelé de Matana.
« Bientôt l'entrée de feu vert dans le ciel, » murmura Long Choupaï. « J'espère que nous arriverons à la demeure de Metarelli avant que les hommes de main de la Camorre ne découvrent son cadavre. »
Les rues des quartiers interdits s'animaient progressivement. Des passants, délogés sans ménagement des maisons de plaisir où ils avaient eu la mauvaise fortune de s'endormir, rasaient furtivement les murs, enveloppés dans des capes anonymes. Des maraudeurs, des mordus de poudre et autres miséreux, fouillaient fébrilement les poubelles auto-suspendues dans l'espoir d'y dénicher des restes de nourriture qui calmeraient leur fringale matinale. Des prostituées vêtues de voiles transparents et de combinaisons ajourées désertaient par petits groupes leur lieu de travail et semaient dans le petit matin des bouquets fanés de rires là. Les robotomates de nettoyage quadrillaient les ruelles, les venelles, leurs tentacules souples aspiraient sans relâche les détritus jonchant les trottoirs. Ils se posèrent silencieusement sur l'herbe brûlée du parc, dont le jour naissant révélait les reliefs. Sar Bilo était engourdi. Mais à peine le taxi-boule s'était immobilisé que des grondements furieux retentirent et qu'une énorme chienne lionne surgit d'un bosquet. Elle se précipita sur l'appareil autour duquel elle rôda en montrant l'écrou. Des micro-paraboles captrices s'étaient greffées sur ses oreilles. Trois gardes en uniforme jaune sortirent à leur tour d'un bunker à demi enterré enfoui sous un épais buisson épineux. Deux d'entre eux étaient armés d'un brûlantrail et le troisième, un maître chien-lion, brandissait une commande à reconnaissance vocale.
Je vais voir. Attendez que je vous fasse signe, dit Ixu au chevalier.
Long Choupa et hoche à la tête. Les lamelles en rideau s'écartèrent silencieusement. L'orangien se glissa dans l'écoutille ventrale, contourna, accroupi, une ventouse d'atterrissage et émergea du côté des gardes. La chienne Lonne vint immédiatement lui renifler les mollets. Elle faisait bien 1,10 m au garrot. Elle grognait et ses babines noires se retroussaient sur des crocs de plus de 10 cm de long. Lorsqu'ils virent Ixu, les traits des gardes, fatigués par leur nuit de veille, se détendirent.
« Ah, c'est vous! On a eu peur que ce soit les hommes de Glactus. Où ça en est là-bas, à Ratchatana ?»
Le maître chien lion lança des ordres brefs et gutturaux dans la commande à reconnaissance vocale. La chienne lionne gémit et s'éloigna de Ixu.
« C'est fini, nous avons récupéré la fille, » répondit l'orangien.
« Le Franzao n'est pas avec vous ?»«
Non, il est reparti avec Xortias au siège de la Camorre, une réunion urgente. »
Le maître chien lion jeta un regard inquisiteur à l'intérieur du taxiboule.
« Ces gens nous ont aidés, » ajouta rapidement Ixu. « Le Franzao m'a chargé de les emmener à Sarbilo en attendant son retour. »
Le garde bâilla sans décrocher la mâchoire. Ses deux compères avaient déjà rengainé leur brûle entraille.
« Bon, allez-y. Je ne vous montre pas le chemin, vous le connaissez aussi bien que moi. Ne faites pas attention aux bulles à visée optique. Je vais prévenir le permanent aux écrans de contrôle de votre arrivée. »«
Merci. »
Le maître chien lion lâcha une nouvelle bordée d'ordre dans le boîtier. La queue basse, le fou se faufila dans le bosquet. Les trois gardes s'en retournèrent d'un pas tranquille vers leur bunker. Ixu entendit encore la voix lasse du maître chien lion avant qu'il ne soit totalement happé par le buisson.
« Va falloir que j'organise une chasse aux traînes-cunes de ces nuits. Elle s'ennuie, cette bête. Il lui faut de l'action et du sang frais. »
Au travers de la bulle de pilotage, Kraufas salua la petite troupe d'un geste de la main. Le taxiboule décolla et ne fut bientôt plus qu'un petit point brillant à l'horizon. Ixu, Longchou et Philpasmoussa, qui portaient Afikit, se dirigèrent vers la maison. Le crépi blanc et rose de la façade, les colonnes de l'entrée, les baies vitrées encadrées de bois cérusé et le toit de tuiles blanches étaient de pur style vieux linois. Il rappelait à Ixu la maison de son oncle. Même type de construction, même couleur, même harmonie. Pour autant qu'il s'en souvint, la seule différence résidait dans la taille. La maison de son oncle n'étant qu'un modèle réduit de Sarbilo, immense bâtisse de 3 étages pourvue de nombreuses dépendances. En la voyant se profiler entre les cimes des cyproniers verts, il respirait de nouveau les parfums de son enfance, les senteurs des jardins d'oranges, les odeurs sucrées et enivrantes des fliottes, fleurs mauves déployant leurs pétales au petit jour, des marguelles, fruits à l'incomparable saveur, des chênepins, arbres dont la résine poivrée embaumait les rues et les places de Fanucil. Ils ne rencontrèrent pas âme qui vive. Comme le maître chien lion le leur avait annoncé, une nuée de bulles grésillantes, opaques et munies de micro-objectifs, les survola et les accompagna jusqu'aux colonnades de l'entrée. La Syracusaine laissait échapper de longs gémissements. Alors qu'il gravissait l'escalier du perron, elle fut saisie de brusques crises de fièvre, se débattit et déséquilibra Philpasmoussa. D'une main, le guerrier parvint à la maintenir contre lui et de l'autre, il évita la chute en se rattrapant à la rampe de marbre blanc. Long Choupae observait à la dérobée le jeune orangien qui marchait à ses côtés. Le sang séché sur sa tunique de coton blanc montrait qu'il avait pris activement part à la bataille du désert. Il remarquait également qu'une ombre de jalousie passait sur son visage à chaque fois qu'il se retournait en direction du guerrier et de la jeune femme. Une intuition forte, claire, traversa l'esprit du chevalier. Ce jeune homme, l'envoyé du destin, le grain de sable, avait un rôle capital à jouer dans la suite des événements. Un rôle dont il était à 1000 années-lumière de saisir l'importance. Pourtant, à le voir ainsi en proie à de mesquins sentiments d'envie, de jalousie, rien ne laissait supposer qu'il occupât une telle place dans l'avenir de l'humanité. Le sort des races humaines et mutantes des mondes censés reposait en grande partie sur un homme sans envergure, fragile, gouverné par ses seules émotions. Mais qui était-il pour juger lui, Long Choupae?
N'avait-il pas lui-même failli en refusant d'affronter les expériences auxquelles l'avait convié son âme? Prévenu par le maître Chien-Lion, le permanent au poste de contrôle avait déclenché l'ouverture de la porte d'entrée. Un ordre méticuleux régnait dans le grand salon du rez-de-chaussée. Banquette air, soigneusement enroulée sur elle-même, tenture haut, parcimonieusement éclairée par des veilleuses, où se devinaient les arabesques silencieuses et incessantes des poissons aux nageoires phosphorescentes, tapis de jaunilles parfaitement ajustés dans leur écrin de bois précieux, tables et chaises recouvertes de housses transparentes. Plus une trace du banquet de la veille. Ils se rendirent au fond du salon et empruntèrent l'escalier qui montait à la mezzanine centrale du premier étage. Philip Asmussa posa sa main sur la bouche de la Syracusaine pour étouffer ses gémissements. Elle avait de nouveau ouvert les yeux. Dans ses iris chatoyants se lisait une stupeur hébétée, entrecoupée de brefs accès de lucidité pendant lesquels elle cherchait visiblement à savoir à qui appartenait cette main qui la bâillonnait et ce bras qui la portait. Au premier étage, attirées par le bruit, les deux sœurs du troisième anneau, celle-là même qui avait massé Tixou quelques heures plus tôt, sortirent d'une chambre et vinrent à leur rencontre. Elles avaient troqué leurs carrés de tissus échancrés contre de longues tuniques de nuit bleues et or sur lesquelles tombaient leurs chevelures noires et lisses. Elles adressèrent un large sourire à Tixou, un sourire plus timide à Philip Asmussa. Elles avaient instantanément reconnu le troisième fils de Dons Asmussa, seigneur de Charao et des Anneaux, qu'elles avaient vu à de nombreuses reprises dans des émissions de Bulovision consacrées à la famille régnante, et s'en retournèrent comme elles étaient venues. Ombre de nuit légère, discrète et silencieuse. Il fallut longtemps à Tixou et à Long Choupaï pour localiser le troisième étage. Ce que Bilo Maitreli avait appelé troisième étage, lors de son ultime conversation avec Tixou, n'était en fait qu'un minuscule réduit, situé dans les combles auxquels on accédait par une plateforme gravitationnelle. Pendant qu'elle s'élevait dans un chuintement assourdi, la Syracusaine prit la main de Philip Asmussa et l'éloigna de sa bouche. Il lui retourna son plus beau sourire, et Dieu sait qu'il avait le sourire avantageux, ce qui eut pour effet immédiat d'accentuer le dépit et la détresse de Tixou. La plateforme se stabilisa devant une massive porte métallique. Les touches lumineuses d'une console brillaient à l'intérieur d'une niche murale. La jeune femme était désormais complètement revenue à elle, blottie dans les bras du guerrier. Elle suivait avec une attention soutenue le déroulement des opérations. De longs frissons parcouraient son corps enveloppé dans la veste chinée du Franzao. Ses yeux, soulignés de profonds cernes violacés, s'égaraient de temps à autre sur Tixou. La mort dans l'âme, l'orangien saisit le code secret du salon sur le clavier. Vieille tirait ange. Il entendit encore la voix faussement sévère du Franzao.
Vieille ange. Comme violine et orange. N'oublie pas le trédignon.
Vous êtes mort pour rien, Franzao Maitreli. Je vais la perdre. Elle était une passagère et lui un employé, un technicien du transfert, celui qui ne servait qu'à frayer les routes de l'espace et du temps. Pour la deuxième fois en deux jours sur deux mondes différents. C'était une fatalité. La porte blindée pivota lentement sur ses gonds. De l'autre côté, le salon des transferts. Une pièce mansardée, habillée d'une lumière bleue qui tombait de lampes haut murales et de plafonniers. Au milieu, posée sur son socle ovale, trônait une machine de forme oblongue, noire, surmontée de deux cabines horizontales. Une biplace? Une sacrée belle bécane, pensa Tixou en connaisseur. La commande d'ouverture était placée sous le carénage avant. L'orangien s'accroupit et passa l'index sur le rayon de coulissage des cabines. Au grand dépit de Tixou, le déromate de Maitreli n'était pas muni de décodeur ADN, et les lamelles transparentes des hublots s'ouvrirent comme des pétales de fleurs. Il se releva et lut à mi-voix le texte qui s'afficha sur une bande déroulante du tableau de bord rétroéclairé. « Téléporteur de marque Telvit, rayon d'action, 20 années-lumière. Type de transport, tout type. Durée de téléportation, 3 secondes standard par année-lumière. Pour le transfert, suivre scrupuleusement les instructions lumineuses de l'écran de cabine. Telvit est un appareil Gouda, un frère de Stragion, planète Isogor.
Il se tourna vers Long Choupae.
Il dématérialise jusqu'à 20 années-lumière.
On avait compris, intervint sèchement Philpas Mussa.
Parfait, ça nous permettra d'atteindre un déromate relais de l'ordre. Veut-il transférer 2 personnes simultanément?
Évidemment, répliqua Tixou, que le ton cassant du guerrier commençait à agacer.
Si on programme 2 personnes aux mêmes coordonnées, il n'y a aucune raison qu'elles ne se rematérialisent pas au même endroit.
Vous êtes probablement un technicien, monsieur, mais pas moi. Peut-on brouiller les coordonnées de transfert?
Ce type d'appareil est équipé d'un programme automatique d'effacement des données.
Tixou avait l'impression que chacune de ses réponses creusait sa propre tombe.
Cependant, qu'il accepta ou non de mettre ses compétences au service des membres de l'ordre ne changeait rien à l'affaire. S'il ne se montrait pas coopératif, il se débrouillerait sans lui, voilà tout. Il ne lui restituerait pas la Syracusaine pour autant. Et puis, bien qu'il refusât de se l'avouer, il savait au fond de lui que c'était la seule solution envisageable. Elle était dans de meilleures mains que les siennes.
« Veuillez sortir immédiatement, monsieur !»
lança Philpas Mussa d'un air mauvais.
« Nous devons maintenant composer les coordonnées secrètes du déromate relais de l'ordre, hors de votre présence. Si vous n'obtempérez pas, je serai dans l'obligation de vous tuer sur le champ. N'est-ce pas exact, chevalier ?»
Tiraillé entre 2 sentiments, Long Choupae hésita un long moment avant de répondre.
C'est en effet l'un des points de règlement de l'ordre.
Heureux de constater que nous sommes d'accord sur quelque chose. C'est tellement rare. C'est donc vous, chevalier, qui nous programmerez aux coordonnées que je vous indiquerai, à la suite de quoi vous serez astreint au silence honorable. Encore une fois, monsieur, je vous prie de quitter cette pièce. Il n'y aura pas de 3e sommation.
Pétrifié, Tixou enveloppa la Syracusaine d'un long regard et bredouilla.
Et elle? « Qu'allez-vous faire d'elle ?»«
Oubliez-la, monsieur, » vitupéra Philpas Mussa hargneux. « C'est la seule chose qui vous reste à faire. Je n'ai pas à vous fournir d'explications. »
Tixou resta immobile à côté du diromate. Il n'avait pas eu le temps de la connaître, de lui prouver qu'il valait mieux que l'aperçu qu'elle avait eu de lui dans l'agence miteuse de 2 saisons. Il l'avait sorti des griffes de 2 monstres, Glactus et Abermitso, et il voulait au moins qu'elle le sache. Il quémandait un peu d'estime, un peu de reconnaissance. Voyant qu'il ne réagissait pas à ses menaces, Philpas Mussa déposa délicatement la jeune femme sur le socle du déromate, se redressa et darda un regard venimeux sur l'orangien. Long Choupae jugea prudent d'intervenir. Il se plaça entre le guerrier concentré, déterminé, et Tixou désemparé.
Cessez donc de jouer les matamores, guerrier. Vous pourriez avoir un peu de considération pour ce jeune homme. N'oubliez pas que c'est lui et ses amis qui ont fait tout le travail à Rajatana. « Écartez-vous, monsieur le banni !» gronda Philpas Mussa. « Ne m'obligez pas à en découdre également avec vous !»«
Regardez donc votre âme, monsieur le 3e fils du seigneur Asmussa !» rétorqua calmement le chevalier. « Vous n'êtes que le produit standardisé d'un système idéologique, un clone. Vous êtes figé dans le temps, vous êtes déjà mort. » Ces paroles butèrent sur la résolution farouche de Philpas Mussa, campé sur ses jambes comme un fauve prêt à tuer. Long Choupae, comprenant que rien ne pourrait ébranler le fanatisme aveugle de son cadet, se tourna vers Tixou.
Faites ce qu'il dit. Il est détenteur d'un ordre de mission émanant du collège décisionnel de l'ordre. De ce fait, rien ni personne ne le ferait dévier d'un atome de son objectif. Passez sur le palier. Je vous y rejoindrai après la programmation.
Mais je ne peux pas l'abandonner,
protesta Tixou en désignant la Syracusaine d'un index tremblant de rage et de désespoir.
C'est également ma mission.
Long Choupae le dévisagea intensément et chuchota. Je ne vous demande pas de l'abandonner. Les obstacles dressés par le sort ne sont pas insurmontables. Vous trouverez une autre solution plus tard. Si vous vous opposez maintenant, vous serez déraciné, abattu. De toutes les vertus, la patience est la plus honorable. Si c'est votre rota individua, votre destin, de la retrouver, vous la retrouverez. Il posa la main sur l'épaule de l'orangien et l'entraîna avec douceur mais fermeté vers la porte métallique. Tixou contempla une dernière fois la Syracusaine. Elle capta son regard. Et, depuis le socle où elle était à demi allongée dans une position qui découvrait jusqu'aux hanches ses jambes nues et repliées,
le fixa à son tour de ses yeux brillants de fièvre et d'ardeur. Il s'efforça de graver dans sa mémoire la lumière intense de ce regard, à la fois limpide et troublé. Il avait toujours cru en une sorte de prédestination, bien pratique, parfait pour justifier ses échecs, particulièrement durant son séjour sur deux saisons, où l'humidité et l'alcool s'étaient conjugués pour révéler une absence de volonté quasi pathologique. Il lui fallait se résigner encore une fois, se laisser reprendre par la spirale infernale de sa rota individua, de sa médiocrité, se réveiller avec la gueule de bois après une nuit peuplée de rêves étranges et merveilleux. Tixou, le pauvre mortel, retombait durement sur terre après avoir volé avec les dieux. Au moment où il franchissait le seuil de la porte, la Syracusaine tendit le bras et cria « Attendez !» Avant que Flip Asmussen ait eu le temps d'intervenir, elle se releva d'un bond, rejeta la veste chinée du Franchao et courut vers les deux hommes, vêtus de sa seule chemise écrue, lacérée et sale, auréolée de l'or de ses cheveux.
« Laissez-moi un moment avec lui, » dit-elle au chevalier. « Prévenez votre ami que je le rejoindrai dès que j'en aurai fini. »
Long Chou Pae s'écarta sans protester ni poser de questions et se rendit auprès de Flip Asmussen, interdit. La Syracusaine fixa Tixou avec attention. Malgré la fièvre qui la rongeait, un sourire éclatant illuminait le visage creusé de fatigue de la jeune femme.
« Je suis Afikit, fille de Sri Alexou. »
Sa voix n'était qu'un lointain et mélodieux murmure.
« Vous m'avez sauvé la vie par deux fois. » Une première fois sur deux saisons, une seconde fois ici aux portes du désert. À présent, je dois me rendre sur Selbdik, conformément à la volonté de mon père, pour y rencontrer le Mahdi Sekoram. Vous voyez, je ne vous mentais pas quand je mendiais un transfert à votre agence de deux saisons. Mais je vous ai méprisé, et de cela je vous demande...
Elle fut prise de vertige et chancela. Ixou la rattrapa par la taille et la serra contre lui. Elle s'abandonna sur son épaule. Il perçut l'odeur et la tiédeur de son corps au travers des étoffes, la caresse de ses cheveux sur son cou, l'écrasement de sa poitrine sur son torse. Elle se redressa, creusa les reins, leva son sublime visage vers lui et dit d'une voix haletante
« Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire un présent. »
L'haleine d'Afikit lui effleurait les lèvres. Il inhalait l'air qui sortait de sa bouche. Il lui sembla que c'était l'air le plus délicieux qu'il lui était jamais donné de respirer.
« Le plus précieux des cadeaux, le son, l'antra. À partir du moment où vous êtes venu à mon secours, ils ne vous lâcheront plus. Ils vous traqueront. Les skaïtes. L'antra vous protégera des pensées d'investigation, de mort. »
Un voile opaque ternissait ses yeux.
« Vite, je suis habilité à vous donner le son. Voulez-vous le recevoir ?»
Elle ne tenait plus sur ses jambes. Tixou resserra son étreinte.
« Je suis prêt, » souffla-t-il. « De par la tradition, indiquer les maîtres. »
Elle faisait visiblement des efforts surhumains pour conserver sa lucidité. Comme un naufragé épuisé qui s'efforce coûte que coûte de maintenir sa tête hors de l'eau. Elle énuméra une suite de noms aux sonorités étranges.
« Voici votre son, l'antra de vie. Vous n'aurez nul besoin de l'invoquer. Il se met de lui-même au service de Shanyan, de l'initié, à condition que le Shanyan ne cherche pas à l'utiliser à des fins personnelles ou destructrices. C'est un engagement. Quel est votre nom ?
Tixou Oti.
Eh bien, Shanyan Tixou Oti, dorénavant vous serez unis au son que voici. »
Elle secoua énergiquement la tête pour ne pas sombrer dans l'inconscience. Puis elle libéra un son vague et incompréhensible, où dominaient les sonorités A et M. Un son qui ne sortait pas seulement de sa gorge, mais qui semblait traverser l'espace et le temps. Une fulgurante décharge d'énergie s'abattit sur Tixou qui faillit relâcher la jeune femme. Afikit évanouie s'affaissa comme un pantin désarticulé. Un feu dévorant se diffusa dans tout le corps de l'orangien, dans sa tête, dans son ventre, dans sa colonne vertébrale, dans ses membres.
Il se sentit écartelé, désintégré, comme lors d'un début de transfert de cellules, à cette différence près que la sensation se prolongeait de façon interminable, insupportable. Une sueur brûlante perla sur sa peau. Le salon des transferts devint flou, se transforma en un délire tourbillonnant d'images chaotiques. Quelqu'un s'approcha d'eux, lui arracha la syracusaine et la porta vers le déromate. Il crut voir des taches brunes, bronze, or et cru, se glisser dans les cabines fuyantes. Le son, le serpent de feu, cherchait sa place, bouleversait tout sur son passage. Une main la grippa à l'épaule, il se laissa raccompagner par Lang Choupae jusqu'au palier, où il s'assit contre une cloison. La porte métallique se referma dans un claquement sec. Quelques instants plus tard, alors qu'il n'avait pas encore repris ses esprits, le chevalier revint s'asseoir près de lui. « Ils sont partis. Que comptez-vous faire à présent ?»«
Je ne sais pas, » bredouilla Tixou. « Peut-être. Peut-être partir à sa recherche. J'ai tellement besoin d'elle. »
Long Choupae hocha la tête d'un air pensif et déclara. « Vous avez besoin d'elle car elle est votre moteur. Mais elle a besoin de vous car vous êtes sa force en innocence. Il semblerait que vos destins soient indissociablement liés. Je m'en suis douté lorsque je vous ai vu au cher marché. J'en ai été certain lorsque je l'ai vu venir vers vous et vous transmettre sa connaissance.
Comment savez-vous ce qu'elle m'a transmis ? Demanda Tixou, encore ébranlé par l'expérience qu'il venait de vivre. D'où vous étiez, vous ne pouviez pas entendre.
Le serpent de feu s'était niché quelque part en lui. Il percevait sa subtile vibration, quelque chose d'indéfinissable, quelque chose comme un bruissement de source ou encore une sorte de murmure silencieux. Un pâle sourire éclaira la face ascétique du chevalier.
« Je sais reconnaître la valeur d'une initiation. Pourquoi avez-vous permis qu'on nous sépare puisque vous pensez que nous sommes indissociables ?»
« Je suppose qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, » soupira le chevalier. « À quoi aurait servi que j'affronte le guerrier Asmussa ? L'eau est le plus sûr moyen de saper le rocher. Pour ne l'avoir pas compris plus tôt, je me suis heurté à bien des difficultés tout au long de ma vie. Quand le vent souffle, il faut l'accepter, plier tout en poursuivant fixement sa propre idée. Moi, j'ai fait l'inverse, j'ai résisté de faste. J'ai été déraciné et j'ai perdu le fil de mon existence. Je ne puis vous donner les coordonnées secrètes du relais de l'ordre, de par le silence honorable auquel je suis astreint. Mais rien ne m'interdit de vous dire que ce déromate-ci peut vous expédier jusqu'à Markina, distante de Pointe-Rouge de 19 années-lumière. Là-bas, il vous sera possible de dénicher un autre déromate à long rayon d'action, qui vous enverra directement sur Selpdik. Pendant que j'y suis, je puis même vous donner le nom d'un très vieil ami qui cache dans son grenier l'un des derniers modèles de déromate privé. Une antiquité, mais toujours en état de marche. Enfin, aux dernières nouvelles que j'ai eues de cet ami, et cela remonte maintenant à 15 années standard, il habitait Duptinat, la capitale, rue de l'orfèvrerie sacrée. Il était lui-même orfèvre et réalisait des ouvrages de commande pour les multiples temples de la théogonie markinatine. Il était aussi et surtout mon premier correspondant civil lorsque j'ai reçu la tonsure. Il retira son bonnet de coton, pencha la tête et montra le rond de peau luisant au milieu de ses cheveux gris. « Pas terrible, hein ? On s'y habitue. Il s'appelle Géofo Anidol. » Pourquoi ne tenteriez-vous pas votre chance là-bas? À présent, je dois prendre congé de vous. N'oubliez pas, Géofo Anidol, rue de l'orfèvrerie sacrée du Kina. Dites que vous êtes envoyé par le chevalier Long Choupae. Il vous écoutera. Long Choupae. Adieu, et vous, allez jusqu'au bout de votre âme. Tixou prit rapidement sa décision. Long Choupae l'aida à se relever. La porte étant restée entr'ouverte, l'orangien n'eut pas besoin de recomposer le code. Luttant contre le vertige titubant, il se dirigea vers la machine noire. Le chevalier sortit sans encombre de Sarbilo. Dans les couloirs de la maison silencieuse, il ne croisa que les deux femmes du troisième anneau,
qui le guidèrent jusqu'à une issue dérobée donnant directement sur la rue. L'énorme disque de feu vert était déjà haut dans le ciel. Il décida de se rendre à la base souterraine de la Camorre, à l'endroit où avait eu lieu la bataille contre les assassins de Prithiv et le skaït d'Hipponéros. Quelque chose le tracassait depuis le début. Il trouvait curieuse la manière dont le cri de Philpasmussa, un cri de qualité médiocre, en tant qu'instructeur au monastère de Selpedic, il n'aurait même pas toléré ce cri de la part d'un aspirant, avait agi sur le skaït. Il n'aurait pas su dire exactement pourquoi, mais il y avait quelque chose d'invraisemblable dans le déroulement de ce combat. Il avait ressenti la fantastique puissance mentale du skaït, et le fait que ce cerveau au potentiel surhumain ait cédé aussi subitement à l'assaut désordonné, incontrôlé, de Philpasmussa, demeurait pour lui une énigme. La réponse se trouvait peut-être sur le cadavre. Si les hommes de main de la Camorre ne l'avaient pas retiré du toit de la base. La voûte céleste se parait maintenant d'une somptueuse teinte vert clair. Les ultimes lambeaux de ténèbres s'effilochaient sur les derniers archipels d'étoiles mourantes. Lang Choupae croisa quelques silhouettes pressées, furtives. Les placides robotomates achevaient de nettoyer les trottoirs en émettant leur ronronnement monocorde. Le chevalier fendit un groupe de prostituées débraillées qui lui lancèrent des apostrophes égrillardes. Il marcha encore un bon moment, traversa pratiquement les quartiers interdits sur toute leur longueur, puis s'enfonça dans la ruelle pavée qui donnait sur le toit de la base. Le bruit de ses pas se répercutait d'une façade à l'autre des hauts immeubles striés de taches de lumière. Il atteignait enfin l'immense surface plane et métallique. Une odeur de sang séché flânait dans l'air frais du matin. Il aperçut des cadavres et plus loin, les quelques têtes qui avaient roulé prises d'assaut par des nuées de grosses mouches rouges et bourdonnantes. Apparemment, l'alerte n'avait pas été donnée. Il s'avança encore et chercha du regard la tache verte de la Kaaba. Il ne la vit pas. Il sentit soudain la brûlure d'un regard sur sa nuque. Il se retourna. Le skaït enfoui dans les replis de son akaba se dressait à 5 pas derrière lui, le même que le guerrier croyait avoir tué une heure plus tôt. « Un coup monté », pensa Lang Choupae. Leur machine de guerre est plus puissante que celle de l'ordre, mais le rôle de ce skaït était de faire croire le contraire aux légats du conseil décisionnel. « Ils nous ont manipulés. Ils ont endormi la méfiance de l'ordre. C'est la fin. La fin. » Dans un réflexe instinctif, il se concentra sur le xuyé et ouvrit la bouche pour lancer son cri de mort. Une douleur effroyable lui vrilla le cerveau.
Le Mahdi Sekoram est-il encore vivant? Ô Dieu, pourquoi n'ai-je pas été jusqu'au bout de mon âme, jusqu'au bout de moi-même?
Ses mains n'eurent pas le temps de parvenir jusqu'à ses tempes. Il s'affaissa lourdement sur le pavé de la ruelle. Son crâne heurta le bord anguleux du trottoir et éclata comme un fruit mûr.